RCF.
Il y a si peu de choses qui parlent de paix autour de nous, ou bien peut-être ne savons-nous pas les voir le carême et peut-être justement ce temps particulier pour contempler la paix, pour la faire vivre. Un exercice à recommencer sans cesse et c'est ce qui vous a intéressé, Père Guillaume Le Floch, bonjour.
Bonjour Madeleine.
Vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre et aujourd'hui curé de paroisse de Marne-la-Coquette et Vaucresson et vous avez longtemps été aumônier des jeunes. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Éloge spirituel de la paix » publié aux éditions Artege. Père Guillaume Le Floch, est-ce qu'il est plus facile de parler de guerre que de paix? Qu'est-ce qui fait que la paix, elle est à la fois ce qui participe à notre bonheur, à notre joie, mais c'est aussi la première qu'on pourrait oublier quelque part?
Bien souvent, on se donne les moyens pour la guerre, on a un budget, etc. Mais concrètement, la paix, elle est difficile à faire. Et pourtant, au fond de nous, même si on n'est pas conscient, on a tous ce désir de paix, enfin plus ou moins conscient, plus ou moins enfoui. Mais je pense qu'au fond de nous, on a ce désir de paix. Et il est peut-être bon, pendant ce temps de carême, de se poser, de prendre les moyens pour aller plus loin dans ce désir, pour le transformer.
Vous parliez du carême, on est justement maintenant dans ces derniers jours avant la semaine sainte et avec nos auditeurs nous avons choisi cette année de vivre ce temps de carême accompagné par quelques versets du Deutéronome, des versets où Dieu parle à son peuple, je cite, « Si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. » Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance. Ça, c'est le Deutéronome, c'est le chapitre 30, les versets 18-19. Guillaume Le Floch, quel lien vous faites entre la paix et la vie? Choisir la vie, est-ce que c'est choisir la paix?
Oui, évidemment. Les deux paraissent évidents, choisir la vie, choisir la paix, on a tous envie, mais après concrètement on s'aperçoit qu'on ne se donne pas toujours les moyens. Choisir la vie, ce choix paraît évident dans le Deutéronome, comme choisir la paix, on a tous envie d'être artisan de paix, mais après concrètement dans notre vie on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, et peut-être que c'est bon de prendre conscience que cette paix elle n'est pas toujours facile, elle est paradoxale, et qu'il y a plein de freins pour essayer de la chercher comme on a envie de chercher la vie, parce que cette promesse que nous fait le Seigneur elle donne envie, et du coup cette paix aussi, cette paix intérieure, elle c'est un beau don qu'on a envie de... Peut-être une fois qu'on l'a redécouvert, de la garder, la trouver, mais il y a peut-être de se donner moyen pour la trouver.
Oui, vous vous arrêtez sur le terme de choisir. Ça veut dire que ça nous implique. Alors, on va s'arrêter sur quelques expressions de la paix dans le Deutéronome pour voir un peu ce qui nous est dit de la paix. Alors, chapitre 20, je lis les versets 10 à 12. « Lorsque tu t'approcheras d'une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si elle accepte la paix et ouvre ses portes, toute la population qui s'y trouve sera astreinte à la corvée et te servira. » Mais si elle refuse la paix et engage le combat, alors tu l'assiégeras. C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que la paix, on y aspire et pourtant on peut la refuser aussi.
Elle ne s'impose pas à nous et il y a peut-être justement à la redécouvrir. De la même manière que le Christ ne s'impose pas à nous, cette paix, on est libre de l'accueillir, de la refuser. Saint Paul fait une opposition entre les fruits de l'Esprit Saint et les fruits de la chair et la paix, elle fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Et du coup, il y a ce choix, comme choisir la vie, pour choisir aussi la paix.
Vous parliez de proposition, c'est ce que fait le Christ, et notamment le Christ ressuscité après Pâques quand il dit « la paix soit avec vous ». C'est ça qui nous est proposé.
Ça, c'est magnifique, le Christ ressuscité qui apparaît à ses disciples qui ont eu peur, qui ont été bouleversés, ils l'ont suivi pendant 3 ans, il ne faut pas oublier ça. Il est mort, ils n'avaient pas compris, la paix soit avec vous, ça c'est juste magnifique, ce don de cette paix. Et en donnant cette paix, tout s'est dit, il n'a pas eu besoin de dire « ça y est, je suis ressuscité », etc. Tout était dit à travers ce don de cette paix. Et peut-être que nous aussi... On ne voit pas le Christ ressuscité, mais à travers certains moments, certaines expériences, etc., on aura le temps de revenir tout ça. Nous aussi, on peut faire cette expérience de cette paix que le Christ nous apporte, qui est d'ailleurs aussi un des fruits de l'Esprit Saint. Si on vit sous la conduite de l'Esprit Saint, on peut accueillir cette paix.
Est-ce que vous diriez qu'on a à proposer cette paix, justement ?
Oui, et peut-être que justement, pour certains qui sont dans des moments difficiles, des combats, je pense que tous autour de nous, et parmi les auditeurs, malheureusement nombreux, les personnes qui souffrent, et peut-être que... Chercher cette paix, ça peut pas forcément être une réponse à nos souffrances, mais les vivre paisiblement, les vivre dans la paix, au-delà de malheureusement tout ce qui nous entoure. Et donc, du coup, il est peut-être bon de se donner les moyens pour chercher et garder cette paix.
Alors, on poursuit notre parcours du Deutéronome au chapitre 27, verset 7. « Tu offriras aussi des sacrifices de paix Et là, tu mangeras, tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu. Alors, des sacrifices de paix, aujourd'hui, on a un peu de mal à saisir. Est-ce que ça vient nous dire aussi que la paix, ça peut nous coûter ?
Mais la paix, elle n'est pas toujours facile. Il ne suffit pas de dire oui, Seigneur, Seigneur, comme dans l'Évangile. Mais il y a peut-être des moyens concrets pour la vivre. Parce que c'est bien beau de dire, bah voilà, on va prier pour la paix pour les pays en guerre. Super. Mais la paix, elle est dès aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre paroisse. Et du coup, bah là, ça implique plus. Et du coup, il y a peut-être de temps en temps des choix pas faciles, des savoir taire telle chose, savoir, voilà, ce choix, il
ça
est nécessaire.
Ça vient nous chercher.
Ben voilà, il y a quelque chose qui est difficile. Mais après, une fois qu'on a dépassé cette étape, on est heureux d'être dans la paix. Enfin, c'est une paix profonde.
Alors, on poursuit chapitre 29, verset 18. « Mais si quelqu'un, alors qu'il entend ces paroles de malédiction, se bénit lui-même en disant « La paix soit avec moi, même si je marche selon mon cœur endurci. » Car il est vrai le proverbe « Terre abreuvée n'a plus soif. » Comment comprendre ce verset de se bénir soi-même « La paix soit avec moi, même si je marche selon mon cœur endurci. » Il y a l'idée qu'on puisse peut-être vivre autre chose que ce que nous propose l'environnement ?
Oui, et aussi je pense que le fait que la paix elle est paradoxale, on n'est pas toujours au même niveau. De temps en temps, moi je cherche peut-être une paix en silence, bien, etc. Et je peux avec une personne qui pour cette paix aura besoin de la partager. Et du coup, bah on n'est pas toujours sur le même niveau. Et du coup, bah ça peut créer des paradoxes et sans temps s'ajuster avec les autres parce que même par exemple dans la liturgie, quelqu'un qui rêve à chaque messe de faire la paix du Christ et quelqu'un qui supporte pas, voilà, on n'est pas sur le même niveau. Et pourtant ce geste a du sens. Il suffit peut-être de le comprendre et voilà. Et c'est peut-être dépasser les apparences et accepter que cette paix soit paradoxale pour pas être dérouté, pour aller encore plus loin dans cette quête de paix.
Il peut y avoir une approche qui soit comprise différemment de la paix, alors qu'on pourrait croire que c'est universel la paix. On pourrait croire que tout le monde le comprend de la même manière. Vous semblez dire que, en fait, selon nos étapes de vie, selon notre humeur, selon le lieu où on se trouve, eh bien la paix, elle a différents sens ou en tout cas différentes manières d'être appréciée, vécue.
Ben on est incarné et du coup la manière dont on y sensible, la manière dont on l'exprime, elle va nous toucher différemment. Évidemment, bah, pour tout le monde, ça reste, pour moi chrétien, un don que le Christ nous fait, le Christ ressuscité dont on disait tout à l'heure, mais la manière dont on va l'étendre, la programmer, bah, ça va s'engager de différentes manières.
Différentes manières, c'est aussi ce qu'on va voir pendant toutes ces émissions, c'est que la paix, elle est multiple, elle a différentes approches, c'est ce que vous proposez aussi dans votre livre. On a évoqué la paix que Dieu nous donne. Si on devait définir, parce que c'est l'exercice auquel vous vous êtes confronté dans votre livre, Éloge spirituel de la paix, si on devait définir ce qu'est la paix, est-ce que c'est un sentiment, est-ce que c'est un état d'esprit, est-ce que c'est une vertu, c'est quoi la paix pour vous? Est-ce que c'est juste l'absence de conflit?
Bah, elle est beaucoup plus loin. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'absence de guerre quand on parle de paix, mais elle est plus loin que ça. Et peut-être que justement, un état d'esprit intérieur, un bien-être, pas un bien-être avec, pardon l'expression, d'avoir fumé un gros pétard, mais un bien-être où on est bien, on est avec soi-même, avec Dieu, avec les autres. Et peut-être que du coup, en étant bien soi-même, qu'on n'a pas envie de faire la guerre. Et avant de dire, bah, il y a des guerres partout, bah, voilà, soyons en paix avec soi, avec les autres, avec notre entourage.
Vous nous proposez la lecture d'un texte de Saint Augustin. C'est Saint Augustin dans la Cité de Dieu avec 10 définitions de la paix. Et je vous propose qu'on écoute ce texte.
La paix du corps, c'est l'agencement harmonieux de ses parties. La paix de l'âme sans raison, c'est le repos bien réglé de ses appétits. La paix de l'âme raisonnable, c'est l'accord bien ordonné de la pensée et de l'action. La paix de l'âme et du corps, c'est la vie et la santé bien ordonnée de l'être animé. La paix de l'homme mortel avec Dieu, c'est l'obéissance bien ordonnée dans la foi sous la loi éternelle. La paix des hommes, c'est leur concorde bien ordonnée. La paix de la maison, c'est la concorde bien ordonnée de ses habitants dans le commandement et l'obéissance. La paix de la cité, c'est la concorde bien ordonnée des citoyens dans le commandement et l'obéissance. La paix de la cité céleste, c'est la communauté parfaitement ordonnée et parfaitement harmonieuse dans la jouissance de Dieu et dans la jouissance mutuelle en Dieu. La paix de toute chose, c'est la tranquillité de l'ordre. L'ordre, c'est la disposition des êtres égaux et inégaux, désignant à chacun la place qui lui convient.
Associer la paix à l'ordre, c'est ce que fait saint Augustin. Pourquoi ce texte vous a semblé important ?
Parce que souvent, dans la paix, on associe soit l'absence de guerre, soit juste une paix intérieure. Et en fait, c'est l'ensemble. Et saint Augustin, dans son esprit bien carré, nous aide à voir la grandeur et tout ce que sous-entend la paix. Et il m'a paru important de s'arrêter là-dessus.
Quand vous définissez aussi la paix, est-ce que vous diriez que c'est quelque chose d'universel ? Est-ce que c'est une vertu ? Est-ce que c'est un état d'esprit ? Comment vous définiriez ?
Tous, on aspire à la paix, qu'on soit chrétien ou pas. Mais pour nous, chrétiens, évidemment, c'est un don que le Christ nous renouvelle. Et puis aussi un fruit d'Esprit Saint. Je pense que c'est plus qu'un sentiment, parce que on ressent cette paix, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que le sentiment où je me tâte le pouls et j'ai la paix. Il y a quelque chose de l'âme et de l'intelligence et où on est dans la paix.
La paix, à la fois, tout le monde voit ce que c'est et en même temps, ça reste difficile à définir. C'est une difficulté à laquelle vous vous êtes confronté en écrivant ce livre.
Oui, et même quand j'ai commencé à parler autour de moi de ce que j'allais parler de la paix, plein m'ont dit, mais quelle idée, la paix, il faut que ça soit une paix spirituelle, la paix, on en a trop entendu pendant les années 70-80, et du coup, beaucoup avaient un a priori assez négatif de ces thèmes de la paix, où certains ne juraient que par la paix, et en fait, pour moi, elle dépasse au-delà de tout ce qu'on a pu entendre, et voilà, elle est un don que le Christ nous donne, qui est bon à avoir, alors pourquoi s'en priver ?
Père Guillaume Lefocq, vous êtes l'auteur du livre « Éloge spirituel de la paix » aux éditions Artege. La paix, dans votre livre, vous dites « La paix, c'est plus que la joie. Pourquoi ». Pourquoi ?
La joie, c'est quelque chose auquel on aspire tous, mais elle a un côté souvent éphémère. Et en fait, j'en suis convaincu que la paix, elle prolonge cette joie. J'étais au séminaire, il y avait une plaque à l'entrée qui m'avait beaucoup marqué. Seigneur, daignez habiter cette maison, accordée à qui entre la joie, à qui demeure la paix. Voilà, on rentre, on est dans la joie, mais le fait de demeurer, c'est vraiment une vraie invitation que nous fait Jésus dans l'évangile. Il y a quelque chose de plus profond, plus durable. Et en demeurant, en cherchant, on trouve cette paix.
Et on trouve au-delà de la joie. Ça veut dire que à quel moment, au fond, la joie s'efface et laisse quelque chose de plus durable ? Est-ce qu'il y a une action à mener pour ça ? Ou est-ce que simplement le temps aussi fait son œuvre ?
Le temps fait son œuvre, mais de temps en temps, on peut être marqué par des épreuves, dans la vie. Malheureusement, on a tous des épreuves. Et au-delà de ces épreuves, on peut quand même être dans la paix. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu mon frère, il y a 2 ans, qui est mort à 38 ans d'un cancer. Il avait 5 enfants, donc sur le papier, c'est horrible, c'est dramatique. Mais il n'empêche que, vu comment il est mort, il est vraiment mort dans la paix, il était disponible, il était serein. Et du coup, nous qui l'entourions, on a pu être dans la paix. Sa messe d'enterrement, qui était pleine à craquer, était vraiment un beau signe de paix. Alors que, en soi, c'est quand même dramatique, 38 ans, 5 enfants, etc. Mais là, on a vraiment expérimenté cette paix. Et pourtant, on n'avait rien fumé, etc. Mais il y avait une paix profonde qui se dégageait et qui continue à nous toucher depuis deux ans au-delà de cet événement.
À quoi est-ce qu'elle tenait, cette paix, d'après vous ? Qu'est-ce qui fait qu'elle pouvait être présente ? Vous parlez de disponibilité de votre frère, c'est une disponibilité à quoi ?
Moi, je suis convaincu que cette paix, elle était liée avec la foi, parce qu'il partait dans l'espérance, il était... il n'y avait pas cette révolte, même si il aimait sa femme, il aimait ses enfants, il y avait un départ et un... Mais dans la confiance envers le Seigneur, de cette vie éternelle que le Seigneur lui promettait, il était dans l'abandon, dans la confiance, et là... Il a pu être plus loin qu'on a pu, avec lui, être plus loin que la joie, être vraiment dans la paix.
C'est communicatif, la paix de l'un vient apaiser l'autre.
C'est sûr, oui. On voit bien qu'une personne qui est dans la paix, nous donne envie d'être dans la paix, du moins on essaye.
Justement, vous évoquez les épreuves. Il y a des freins à la paix. C'est pas quelque chose qui va de soi, même si, comme vous l'évoquiez dans la première émission, ça peut sembler banal. La paix, en réalité, ça ne va pas de soi. Quels sont les freins à la paix ?
Mais bien sûr, il y a les épreuves dont je viens de parler, mais après, il y a aussi ce qu'on fait ou qu'on fait pas, comme certaines addictions, certaines pertes de temps. Du coup, après, on n'est pas dans la paix. Et puis après, ça peut être simplement des critiques. Voilà. Et puis, le fait que cette paix, elle soit fragile, ça peut aussi nous freiner. En fait, peut-être que, avant de rechercher cette paix, il est peut-être bon de voir que cette paix, comme elle est fragile, elle peut nous dérouter. Et savoir dépasser ses freins, ça peut nous aider à la chercher. Et non pas chercher ses freins pour faire une liste de difficultés, mais en étant conscience de ses freins, ça nous permet de savoir les surmonter.
Ça veut dire que il faut, de temps en temps, peut-être faire un point sur ce qui, dans nos vies, nous préoccupe. Est-ce que c'est nécessaire de s'arrêter, faire le point?
De toute façon, ça fait toujours du bien de se poser partout avec le Seigneur. Mais peut-être que justement, pour aller plus loin, dans notre quotidien, dans nos habitudes, on a tous des choses qui nous empêchent d'être dans la paix. Par exemple, le temps perdu sur son téléphone, etc. Évidemment, c'est pas interdit de prendre du temps sur son téléphone, mais si on le fait et qu'on regrette, du coup, après, on n'est plus dans la paix. Alors que si on dit, tiens, voilà, là, ce soir, j'ai rien envie de faire, j'ai passé mon heure sur mon téléphone, si on choisit, on va pas le regretter. Alors que si on le subit, du coup, c'est pas du tout la même chose.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Eh bien, je vous propose d'écouter Saint François de Sales sur, justement, la maîtrise, cette fois-ci, de ses humeurs et de ses colères.
Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai : Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu. Elle nous viendra en aide. Ainsi soit-il.
Merci à Bertrand Lachana qui lisait ce texte. Vous semblez dire que si c'est le désordre, si on subit davantage que l'on ne s'implique dans sa vie, est-ce que c'est un facteur de guerre, enfin de conflit personnel presque?
C'est sûr que si on a une vie désordonnée, ça sera peut-être plus difficile d'être sensible à la paix, de savoir se poser. Et puis, peut-être que du coup, ça sera difficile de lutter contre certaines addictions, contre certaines pertes de temps. Enfin, et après, ça sera à chacun peut-être de trouver l'équilibre qui lui plaît. On peut être dans la paix sans être ultra équilibré, avoir quand même une certaine souplesse.
Est-ce que c'est une discipline, vous diriez, pour parvenir à la paix?
Discipline, ça fait peut-être un peu peur, mais je reprendrai le thème central. Il y a un choix.
Choisis la vie.
Il y a un choix de cette paix. De la même manière qu'on disait souvent, on a à choisir d'être dans la joie, mais là, qui est encore plus profond et encore plus durable, il y a à choisir d'être dans la paix. Et du coup, à lutter contre ces freins. Et chacun, en se connaissant, on voit bien là où on a nos mauvaises habitudes et là où on s'en veut. Et peut-être que chacun, particulièrement peut-être dans son temps de carême, on a des lieux à convertir pour être dans cette paix, cette paix durable qui vaut le coup.
Ce que vous semblez dire, c'est que combattre ces addictions, c'est pas l'ultime objectif. L'ultime objectif, c'est de parvenir à être dans la paix parce qu'on aura combattu ce qui vient troubler cette paix.
De la même manière que le but du carême, c'est pas de faire des choses, parce que c'est de nous préparer à accueillir le Christ. On n'est pas aux Jeux Olympiques de celui qui va faire le plus de jeûnes, de prières, de partages, mais si, en changeant les habitudes, on revient au Christ, de la même manière, le Christ nous apporte la paix. Et en changeant peut-être certaines habitudes dans nos addictions, peut-être en réduisant nos temps d'écran, pour certains, ça peut être d'autres choses. Il y a plein d'addictions dont certains sont esclaves. Et de dépasser cet esclavage, en fait, le jeûne, c'est pour nous rendre libres. Et du coup, de lutter contre nos addictions, c'est aussi d'être libre. La liberté, elle nous élève et du coup, elle nous redonne cette paix.
Alors, vous citez une prière, justement, on parlait d'addiction. Vous citez dans votre livre une prière contre l'alcoolisme, c'est assez étonnant. C'est une prière à Alfred Pompalon, c'est une prière qui vient exhorter à quitter ses addictions.
Je dirais pas que c'est que pour l'alcoolisme, c'est, oh, il est vu comme, entre guillemets, patron des addictions, mais lui, c'est, son addiction, c'était l'alcool, et il avait un peu ruiné sa vie à cause de l'addiction au whisky. Il vient, par cette prière, demander qu'on soit libéré justement de nos addictions qui nous empêchent et qui nous enferment. Et du coup, tant qu'on est enfermé, on peut pas être dans la paix.
Dans votre ouvrage, il y a un passage qui m'a étonnée, c'est « La paix est-elle illusoire ?» Est-ce qu'il peut y avoir des moments où l'on croit que cette paix est là et en réalité c'est une illusion, ce n'est pas véritablement la paix à laquelle on est invité de vivre ?
Que ça soit la paix sur la cour internationale ou dans nos familles, on a tous des moments où on se dit à quoi bon, et qui peut nous décourager de chercher cette paix. Souvent on dit ça marchera jamais, on n'y arrivera pas, et du coup il peut avoir un côté face à la difficulté de certaines paix et des conditions, etc., qui peut nous décourager et nous freiner à la recherche de cette paix en disant à quoi bon, enfin, et du coup ça nous empêche d'avancer.
Il y a des harmonies qui sont illusoire, vous diriez?
Illusoire, oui, et en même temps, et aussi beaucoup plus difficile à trouver. Certaines demandent plus de travail.
Alors, vous proposez également dans votre ouvrage d'essayer, en fin de compte, d'instaurer cette paix dans le quotidien. Alors, à la fois en évitant les pertes de temps, à la fois en identifiant ses addictions, à la fois en essayant de dépasser ses épreuves, mais aussi peut-être en instaurant des rituels de paix. Alors, il y a la prière du matin, la prière du soir. C'est des moments marquants d'une journée qui peuvent permettre de se mettre dans une disposition, une disponibilité, comme vous le disiez en début d'émission.
Si c'est le Seigneur, comme j'en suis convaincu, qui nous apporte la paix, le temps de prière nous aidera à accueillir et à demeurer dans cette paix. Surtout avec la prière des heures qui permet d'encadrer notre journée, et en étant dans la paix dès le matin avec le Benedictus, où on accueille cette paix, et avec le soir avec Siméon, maintenant maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Et du coup, à travers cette liturgie de l'Église qui nous aide à être dans la paix tout au long de notre journée.
Oui, vous citez le cantique de Siméon, c'est vrai qu'il est magnifique, il est lu dans les communautés religieuses le soir.
Tous les soirs, mais même pas que. Il y a de plus en plus de fidèles qui prient complices tous les soirs, et c'est vrai que c'est une magnifique prière d'abandon, de confiance, et aussi pour s'en remettre au Seigneur dans la paix. Et en plus, il se trouve que l'antienne, etc., elle insiste sur cette paix. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons, garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, nous reposerons dans la paix. Enfin, du coup, il y a cette vraie insistance sur cette paix avant de se coucher.
La paix, en fait, c'est presque une conquête.
Oui, il ne suffit pas de la vouloir, il y a à désirer et à se donner les moyens pour la trouver et la garder.
Alors, vous citez dans votre livre un petit extrait du Petit Prince. On va l'écouter, et ce qu'on entend, c'est le businessman qui parle et qui reçoit le Petit Prince chez lui.
Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi ? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix.
Donc ce businessman est dérangé pour la troisième fois, cette fois-ci c'est par le petit prince. Avoir la paix, c'est ne pas être dérangé ?
Selon le businessman, mais pour comprendre ça, il faut voir que c'est le petit prince qui va de planète en planète, qui cherche, il est en sa quête. Et à chaque fois, il manque quelque chose. Il y a une planète où il manque des amis, il manque de vacances, il manque de place. Et avec le businessman qui ne veut pas être dérangé, il n'y a point d'espoir de paix. Et du coup, bah voilà, le petit prince va continuer à chercher. Mais peut-être que comme le petit prince, on peut aussi continuer à chercher, à trouver cette paix. Parce que le businessman, il est un peu égoïste, renfermé sur lui. Et du coup, bah voilà, il n'y a pas beaucoup de place à la paix et à l'inconnu.
Mais il pense être en paix, le businessman, justement. Parce qu'il pense que la paix, c'est ne pas avoir de visite. Il pense que la paix, c'est accomplir son travail jusqu'au bout. Il pense que la paix, c'est être sérieux. Il se trompe ?
Il se pense en paix, mais au fond, quand on creuse un petit peu, on aperçoit qu'il n'est pas si serein que ça.
Et alors, le petit prince, lui, passe de planète en planète. Vous semblez dire que c'est justement une recherche que le petit prince a d'aller au-delà de ce qu'il connaît aussi et d'aller voir ailleurs à quoi la paix peut ressembler. Est-ce qu'il arrivera à son objectif, le petit prince ?
Bon, d'une certaine manière, oui, quand il y aura le moment où il va apprivoiser le renard, où il va prendre le temps, parce que les autres planètes, c'est rapide, c'est vite fait, il n'y a pas de place pour lui, il n'y a pas de temps. Et le renard qui prend du temps, lui, ben voilà, c'est pas tout de suite, et voilà, et peut-être que justement à l'image de cette paix qui prend du temps, etc., le renard qui lui donne des règles, etc., pour l'apprivoiser au fur et à mesure, ben peut-être que c'est d'une certaine manière, ça aide le petit prince à chercher cette paix.
La paix, ça prend du temps, ça se joue aussi dans la fidélité.
Oui. La fidélité au quotidien, elle joue, mais ça prend du temps pour demeurer. Et c'est justement ce que le psaume nous dit, recherche la paix, poursuis-la. Du coup, il y a à la rechercher et à la poursuivre pour vraiment avoir ce désir de paix. Et comme exemple de recherche de paix, j'aime beaucoup le pèlerin russe, qui est un pèlerin du 19e, et un anonyme, plutôt la tradition orthodoxe. Et il a ce désir de Dieu. Il va de staré en staré, les prêtres dans les monastères, et il cherche la prière parfaite. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que, en fait, ce qu'il cherche, il cherche d'être dans la paix parce qu'il a un côté insatisfait. Et du coup, il va d'endroit en endroit, il quête, il demande, etc. Il se fait pèlerin. Faut pas s'oublier que nous, sur cette terre, on est pèlerin sur cette terre. Et ce pèlerin qui cherche, qui se donne les moyens, qui interroge des savants, des religieux, pour trouver le Seigneur, bah peut-être que ça rejoint cette invitation que nous fait le psaume, recherche la paix pour celui-là. C'est pas en restant les bras creusés autour d'une table qu'on va avoir cette paix. Et du coup, j'aime bien cette dynamique de ce pèlerin russe qui cherche cette prière constante. Et d'une certaine manière, quand on est dans la paix, même si on n'est pas en train de prier, on est avec le Seigneur. Pour moi, ça répond à cette quête de ce pèlerin russe.
Au fond, ce que vous nous dites, c'est que la paix, ce n'est pas d'être au calme, arrêté. Vous venez nous dire que la paix, au contraire, c'est une dynamique, c'est une mise en marche, c'est un mouvement. Ce n'est pas forcément à ça qu'on associe la paix.
Oui. Parce que justement, comme elle est difficile à trouver, il suffit pas de s'enfermer chez soi, parce que ben voilà, il y a de temps en temps des choses qui fait que chez soi on n'est pas dans la paix, parce qu'on s'est disputé avec ses amis, avec etc. Et du coup, en se donnant les moyens, en cherchant à l'extérieur, on peut retrouver cette paix, et la paix, elle a quelque chose de dynamique.
Il faut aller la chercher. Alors vous citiez le psaume 33, les versets 13 à 15, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. La paix, elle est aussi dans l'action.
Elle est dans l'action, oui, parce qu'il faut la vouloir et il faut aussi se donner les moyens. Il ne suffit pas de dire je veux, mais bah, voilà, peut-être sortir de son confort, changer nos habitudes. Hier, on parlait des freins. Et peut-être qu'au-delà des freins, bah, du coup, c'est dire bah, comment je me retrousse les manches pour trouver cette paix. Et de la même manière que Jésus dans l'évangile nous invite vraiment à demander, etc., il y a quelque chose de dynamique dans Matthieu 7. Il y a vraiment demander et on vous donnera, chercher, vous trouverez. Il y a vraiment quelque chose de dynamique. Et peut-être que ça peut nous aider à voir que ce soit la paix ou même la foi, c'est pas quelque chose de plan-plan. Enfin, trop facilement, on a l'image des croyants qui est plan-plan. Une phrase qu'on entend souvent en église, on a toujours fait comme ça. Et en fait, on peut pas se contenter de ça. Cette paix qu'on a, elle est jamais acquise, comme elle est fragile. Et on est en chemin, et comme ce pèlerin russe qui avance, qui continue à avancer, comme le petit prince qui cherche. Voilà. Parce que la paix, une fois qu'on l'a trouvée, bah, il faudra la garder. Et du coup, bah, pour la garder, on ne pourra pas rester enfermé chez soi parce que bah, forcément, on va avoir des contradictions. On est en chemin et de ne pas oublier que sur cette terre, on est pèlerin et il y a une dynamique, on avance. Après, peut-être que justement, le fait de savoir ses freins et de dépasser ses obstacles, ça sera peut-être plus facile de la garder. Mais il n'empêche que bah, on n'est pas à l'abri d'épreuves ou de nouvelles contrariétés qui peuvent nous freiner.
Ce verset de l'évangile selon saint Marc, c'est au chapitre 10, verset 34-39. « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, c'est le Christ qui parle. » Alors si le Christ n'est pas venu apporter la paix, mais qu'est-il donc venu apporter? Alors ici, il nous dit c'est le glaive. Comment est-ce qu'on peut comprendre?
Ça fait partie des évangiles les plus déroutants. Le Christ qui pourtant, le soir de Pâques, apporte la paix soit avec vous, Jésus qui est nommé comme le prince de la paix, qu'on en voit pendant le temps de l'Avent, etc. Et là qui dit « je ne suis pas venu apporter la paix », il y a de quoi être dérouté. Mais en fait, moi je pense vraiment que c'est la conséquence de ceux qui refusent. Le Christ nous laisse libre, on n'est pas des pantins en disant « je crois pas », et du coup bah, ça a des conséquences dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays, entre ceux qui l'accueillent et ceux qui le refusent pas, et ceux qui en son nom veulent faire la guerre, etc. Et du coup bah, ça a des conséquences, c'est pas lui qui apporte le glaive, mais c'est la conséquence de l'interprétation et des divisions, etc. Alors que c'est pas lui le diviseur, mais c'est comme il nous laisse libre, du coup ça engendre des divisions et des tensions.
Alors je vous propose qu'on écoute un commentaire des béatitudes par le pape François, c'est dans l'exhortation apostolique Gaudete et exultate, et c'est la septième béatitude qui est commentée, c'est la béatitude qui justement est sur la paix. Donc ce texte, c'est le pape François.
Les pacifiques sont source de paix. Ils bâtissent la paix et l'amitié sociale. À ceux qui s'efforcent de semer la paix en tout lieu, Jésus a fait une merveilleuse promesse. Ils seront appelés fils de Dieu. Il a demandé à ses disciples de dire en entrant dans une maison « Paix à cette maison ». La parole de Dieu exhorte chaque croyant à rechercher la paix en union avec tous, car un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. Et si parfois, dans notre communauté, nous avons des doutes quant à ce que nous devons faire, poursuivons donc ce qui favorise la paix, comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, parce que l'unité est supérieure au conflit.
Ici, le pape François associe la paix à la justice. C'est totalement lié.
Ben, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Enfin, moi, je parlais ensuite de la paix qu'il y a eu en 1918. Il y a eu des tensions, parce que du coup, elle paraissait injuste, et cette tension est malheureusement émergée de la Seconde Guerre mondiale. Mais quand il y a une paix qui n'est pas juste, il y a des ressentis, etc. Donc, c'est bien beau de vouloir la paix à tout prix, mais encore faut-il qu'elle soit juste et permette au peuple d'être dans la paix. Parce que le peuple qui, officiellement, la paix avait été signée, etc., le 11 novembre, mais il y a eu des ressentis dans les peuples. Et ça a créé des tensions et voilà.
Ça veut dire aussi que la paix, elle nécessite un certain cadre. Il y a à la construire et il y a à avoir des outils pour qu'elle existe.
La paix, elle est pour tous. Nous, comme chrétiens, on y est peut-être particulièrement sensibles parce que le Christ nous l'apporte. Mais je pense que tous, que nous mettions le nom du Christ ou pas, on a tous envie d'être dans la paix et d'être en paix en soi-même. Avec les autres et dans notre communauté, dans notre pays. Et au-delà.
Alors, vous avez cité le verset de Saint Marc, donc qui nous dit le Christ apporte la paix, mais aussi le glaive. Et vous citez aussi Saint Luc. Alors là, on est en début de vie du Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est cette troupe céleste innombrable d'anges qui arrive à la naissance du Christ. Le Christ était attendu. On a dit que c'était le prince de la paix. Il était attendu pour la paix.
Oui, et dès sa naissance, c'est ce que les anges manifestent aux bergers, ils annoncent la paix. Et d'ailleurs, il était annoncé pour la paix, mais certains attendaient de lui un messie politique. Ils n'avaient pas compris que la paix allait arriver d'une autre manière. D'ailleurs, les disciples vont dire, après Emmaüs, après l'apparition, est-ce maintenant...
Emmaüs, ce sont les deux disciples.
Les deux disciples qui cheminent, et après, quand Jésus apparaît aux deux disciples, est-ce maintenant que tu vas rétablir la... Ils ont toujours pas compris. Et en fait, ils attendaient une paix politique avec le Christ. Et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une paix des cœurs que le Christ nous apporte.
La paix et la prière, c'est vrai que c'est souvent associé, mais parfois aussi la prière, ça peut être un lieu justement au contraire turbulent, de pensées qui se bousculent. C'est pas toujours synonyme de paix la prière. Pourquoi ?
Parce que c'est pas toujours facile de se poser, et pourtant quand on se donne les moyens, quand on prend du temps, parce que parmi la prière, je citerai par exemple l'oraison. L'oraison, c'est une prière qui est à redécouvrir, ce temps un peu long, un peu gratuit pour le Seigneur, où on ne fait rien, même pas de chapelet, etc. Enfin, on peut éventuellement lire un texte de la parole de Dieu, ça fait jamais le mal. Mais on est d'abord posé, il est là, un peu comme le paroissien du curé d'Ars, je l'avise, il m'avise, mais simplement gratuitement. Et peut-être que cette gratuité, ce temps un peu long, peut-être que justement avoir cette paix. Et on ne peut pas penser à Élie. Vous savez, le prophète Élie, qui était peut-être d'abord un peu belliqueux avant de rencontrer le Seigneur, il avait envie de tuer les faux prophètes, il y avait plein de faux prophètes, lui il était fidèle, il est un peu fier, enfin, Élie, et vous le savez, il va faire l'expérience de Dieu dans la caverne, et en fait, le Seigneur va lui montrer que la présence, ça ne marche pas par la bagarre, par la dispute, mais il va faire l'expérience du Dieu qui est présent dans le murmure d'une brise légère. Et pour Élie, c'est une vraie expérience de paix, et ça change cette image de la prière où c'est d'abord un combat. Il n'empêche que pour être fidèle, la prière, elle demeure un combat, parce que si on attend d'avoir envie, on prie plus, parce qu'on ressent pas, et puis la veille c'était super, on sentait le Seigneur, et puis on sait pas pourquoi, le lendemain et le surlendemain il ne se passe rien, mais il n'empêche que cette fidélité, ce rendez-vous, j'en suis convaincu qu'il est vraiment source de paix.
Alors vous parlez de l'oraison, c'est une prière mais un peu plus longue, peut-être nous dire vous faites oraison, à quoi ça ressemble?
Je fais oraison tous les jours. Mais c'est pas parce que je suis prêtre et ordonné depuis quelques années que c'est pour autant facile, mais il n'empêche que je suis toujours heureux d'avoir pris un moment gratuit avec le Seigneur. J'essaye d'être surtout dans l'église, devant le Saint-Sacrement, où je suis entre guillemets posé. Un temps un peu gratuit, et même comme prêtre, facilement, trop facilement devant le Seigneur, on pense à d'autres choses, à ma future homélie, etc. Mais en fait, la gratuité, peut-être que justement, elle nous aide à retrouver cette paix, et moi le premier, on a tous à retrouver cette gratuité dans un monde où on est à 100 à l'heure, on pense toujours à plus tard, et en fait, je suis convaincu que ce silence et cette gratuité sont vraiment source de paix.
Donc ça, c'est l'oraison. Qu'est-ce qu'il en est de la confession, du sacrement de réconciliation ? Dans réconciliation, on entend la réconciliation des peuples, mais la réconciliation de soi-même avec Dieu.
La confession, c'est vraiment un cadeau à redécouvrir. Et justement, pour retrouver cette paix, parce que de temps en temps, on voit bien qu'il y a certains péchés, certains actes qui nous coupent de cette paix. Donc on a besoin de s'en remettre et de redécouvrir la miséricorde du Seigneur et de recevoir cette pardon pour retrouver cette paix. Et puis, le prêtre, quand il nous donne l'absolution, et c'est dans la formule absolution, on reçoit le pardon et la paix. Et du coup, voilà, il y a déjà cette paix qui est coupée par nos actes. Et en plus, on reçoit cette paix dans la formule absolution. Et on voit bien, on fait l'expérience que cette paix, elle est fragile. Et de temps en temps, il y a des choses qu'on a dit, des rencontres, des choses qu'on n'a pas fait, etc. Et du coup, on n'est pas dans la paix. Et on a besoin de se confesser pour pouvoir retrouver cette paix.
C'est-à-dire qu'on est chargé en fait de honte, de culpabilité, de regret, de remords. C'est cela qui vient troubler la paix ? avant le sacrement de confession.
Mais c'est ça, oui, c'est parce qu'on ce qu'on a fait ou pas fait. Moi le premier, de temps en temps, il y a des trucs, on va trop vite ou on n'assume pas, ou des choses qu'on fait. Le péché, qu'on coupe cette paix et ben voilà, on a l'habitude de voir nos péchés comme des manques d'amour et en fait, quand on n'a pas été fier de notre foi ou par rapport aux autres aussi, même par rapport à soi-même, mais du coup, on a perdu cette paix. Mmh. Et alors, le sacrement de réconciliation, c'est vraiment le lieu pour retrouver cette paix.
Alors, la paix, elle est présente dans la liturgie, celle que vous célébrez notamment pendant la messe. À quel moment, pour vous, au cours d'une messe, il y a justement l'évocation de la paix, le geste de paix ?
Mais la paix, elle est présente dans toute la messe. Encore plus quand c'est un évêque qui préside, parce que lui, il fait comme le Christ, la paix soit avec vous. Voilà, il reprend sur les paroles du Christ ressuscité. Mais tout au long de la messe, il y a la paix. Évidemment, on envoie. Voilà, on a reçu la parole de Dieu, on a reçu le Christ, le prêtre ou le diacre nous envoie aller dans la paix du Christ. Bah, du coup, voilà, il est quand même très fort, cet envoi. Enfin, on a reçu. C'est pas juste, allez, dépêchez-vous, on devrait fermer l'église. C'est vraiment, vous avez reçu la parole de Dieu, vous avez reçu des nourris de l'Eucharistie. Maintenant, être témoin de cette paix. Et puis, bien sûr, tout au long de la messe, il y a justement, avant cet échange ou pas de la paix, juste avant l'agneau de Dieu, cette très belle prière, que le prêtre dit. Voilà, cette magnifique prière où la paix est omniprésente, juste après le Notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Voilà, ce vœu de paix que le prêtre fait juste avant qu'on communie, on a dit Notre Père, il est juste magnifique.
Alors, il est magnifique parce qu'il est associé à l'unité aussi. On n'a pas évoqué cette idée que la paix, c'est l'unité.
Ça va ensemble.
C'est une source.
Ça va ensemble. Enfin, si on est unis au Christ et si on est en la paix, on s'aperçoit que nos querelles de clochers, on peut les relativiser. Et du coup, voilà, nous, chrétiens, on a quelque chose de beaucoup plus fort que de savoir comment il faut célébrer.
Alors, le geste de paix dans cette liturgie, quelle place il occupe ?
En fait, il est peut-être à bien comprendre parce que pendant un moment, on le faisait à chaque fois, et du coup on avait peut-être oublié, le temps du Covid on s'est arrêté, et en fait quand on s'est mis à le refaire, au début on serrait pas la main, mais on se regardait dans les yeux, et peut-être que le regard nous a permis de recomprendre ce geste. En fait, ce geste, il vient du Seigneur qui est présent sur l'autel à ce moment-là. On a dit notre Père, le Christ est là, et c'est lui qui nous apporte cette paix. C'est pas juste, on est content de voir Madame Michu, Madame Truc à côté de nous à la messe, on va lui faire un grand baiser et nous serrer la main. En fait, Ce geste de paix, on s'échange, on va communier, le Christ est présent sur l'autel, il nous apporte la paix. Et voilà, ça peut être sobre auprès de ses voisins, etc. Il n'y a pas forcément besoin de faire le tour de l'église comme dans certaines communautés où tout le monde avait besoin de donner la paix à tout le monde. Mais si on comprend pourquoi on le fait, ben voilà, ça a tout son sens. Il y a des communautés monastiques où c'est fait très sobre, les prêtres qui célèbrent, qui le donnent aux moines, qui ensuite transmettent. Et en fait, ça nous aide à recomprendre pourquoi on fait ce geste. En fait, il vient vraiment du Christ qui est présent sur l'autel, et les moines qui font soit une poignée, soit une accolade, mais ça, c'est transmis de moine en moine, et c'est très, très touchant.
Alors, à propos de paix, je voudrais qu'on s'arrête sur cette disposition à s'abandonner aussi. Ça en fait partie. Et vous citez, et j'aimerais qu'on le lise, ce texte de Charles de Foucault. C'est « Mon Père, je m'abandonne à toi », je voudrais qu'on l'écoute.
« Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Père Guillaume Le Floch, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte ?
Déjà parce que j'aime beaucoup Charles de Foucault et que cette prière, elle commence à être bien connue et c'est un bel exemple d'abandon. Et je suis convaincu que pour avoir la paix, pour la trouver, il y a un moment où il faut accepter de ne pas tout mépriser. C'est vraiment une attitude chrétienne par excellence, qu'on dit aussi dans notre Père, que ta volonté soit faite. Mais si on est inquiet, si on se demande comment sera fait demain, on ne peut pas être dans la paix. Il y a un moment où il faut accepter de lâcher prise. Et du coup, là, Charles de Foucault est un magnifique exemple. Dans sa vie, il cherchait à avoir des disciples, cherchait à créer une communauté, il n'y a eu personne. Mais il n'empêche qu'après sa mort, il y a eu une fécondité incroyable. Voilà, les critères du monde, c'est pas forcément les critères de Dieu, mais il y a eu une fécondité. Et voilà, Charles de Foucault a fait confiance, il s'est abandonné. Peut-être que si c'était sur les critères du monde, il se serait révolté, à quoi bon, je suis tout seul, personne, etc. Et il a fait confiance, il s'est abandonné, et on voit la fécondité aujourd'hui, il touche énormément de monde.
Et puis un dernier point aussi sur les conditions dans lesquelles on peut garder cette paix, c'est celle du lien avec la vérité. La vérité et la paix, on a parlé de la justice et de la paix, je voudrais qu'on s'arrête sur la vérité et la paix. Est-ce que la vérité conduit toujours à la paix ? On sait que parfois ça peut au contraire raviver des conflits, raviver des tensions. La vérité est-elle garante de la paix ?
Ça c'est un sujet qui est pas simple parce que il y a des vérités où c'est pas forcément le moment de le dire. On a tous des souvenirs de moments de famille, des déjeuners de famille où certains voulaient régler ses comptes avec un autre et en soi il avait raison, ce qu'il disait était vrai. Et donc voilà, mais est-ce que c'était le moment ? Est-ce que pour le souci de la paix, non pas mentir, ça c'est jamais bon de mentir, mais est-ce que peut-être attendre ? Est-ce que plutôt qu'en parler devant tout le monde, il y a peut-être pour avoir ce souci de cette paix, non pas au détriment de la vérité, parce qu'il faut jamais baisser la vérité. La vérité nous rendra libres. Le Christ nous apporte la vérité. Il est la vérité. Mais dans un souci de charité, peut-être savoir concilier les deux.
Vous semblez dire que ce qui doit primer, c'est peut-être la paix avant la vérité, ou vous donnez le nom de vérité à autre chose ?
Je dirais ce qui doit primer, c'est la charité. Entre la paix et la vérité. Et du coup, si la charité prime, on aura les deux.
Je voudrais qu'on s'arrête avec vous, Père Guillaume Le Floch, sur toutes ces figures de paix. Vous accordez un passage dans votre livre « Éloge spirituel de la paix » à ces personnalités, alors notamment le curé d'Ars, mais aussi Jean-Paul II, des personnes dont l'esprit de paix a pu être perçu de leur vivant. Qu'est-ce qui vous a marqué chez elles ?
Le curé d'Ars, lui, c'est comme confesseur acharné. Dans la cathédrale de Nanterre, on a des fresques. D'ailleurs, je vous invite à visiter la cathédrale de Nanterre. On a des très belles fresques pour illustrer les béatitudes. Et celle qui illustre les artisans de paix, c'est le curé d'Ars. C'est justement par son ministère de confession, il a pu être artisan de paix tout au long de ces années. Jean-Paul II, lui, forcément, a été marqué par sa jeunesse entre le communisme et le nazisme. Et du coup, face à ces horreurs, il s'est engagé comme pape, comme artisan de paix. Mais lui, c'est un exemple assez complet parce qu'il s'est engagé dans le monde, dans une paix politique, mais en même temps, comme pape au service de l'Église, il a vraiment eu ce désir d'une paix profonde et d'aider à cette relation avec le Christ.
Oui, une paix politique, on évoquait à la fois l'attente des disciples d'Emmaüs qui regrettent presque de ne pas avoir un messie politique, mais on s'aperçoit aussi que des grandes figures chrétiennes ont été des acteurs d'une paix politique.
Une fois qu'ils ont trouvé cette paix, il est bon que des chrétiens s'engagent, et particulièrement pour cette paix. Et on a besoin d'artisans de paix, il en faudrait encore plus.
Alors vous parlez d'engagement, on va lire justement une prière qui est celle de Saint François d'Assise. Cette prière, elle est magnifique, c'est celle où il demande à être un instrument de paix.
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
Est-ce que cette prière, elle vous a inspiré personnellement, Père Guillaume Le Floch ?
Elle est magnifique, mais il demande d'être un instrument de paix. Et du coup, l'instrument, c'est celui qui est utilisé. Donc, il y a une disponibilité de la part de Saint François. Et on voit que Saint François, il y a aussi une magnifique fécondité. On parlait de Charles de Foucault, mais Saint François aussi, il a abandonné sa vie riche de sa famille, etc. Et il y a une énorme fécondité. Et il a été disponible et il a été un instrument de paix dans toute sa vie et encore aujourd'hui, si on peut le dire, par sa fécondité.
Est-ce que vous invitez aussi vos lecteurs à vivre des temps forts de paix, c'est-à-dire à expérimenter la paix? La paix comme un engagement, on le disait avec cette prière, mais aussi la paix comme une expérience.
Oui, et on a tous plus ou moins des moments où on était heureux, on était dans la paix. Ça peut être des moments très variés. Une belle promenade au bord de la mer, une ascension dans une montagne, un déjeuner de famille, même une marche sous la pluie. Enfin, on a des moments variés où on fait vraiment cette expérience, on était bien. Un peu comme Pierre à la Transfiguration, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes. Ben voilà, on est bien, on est dans la paix. Et du coup, ces moments où on prend conscience de cette proximité du Seigneur, où on est dans la paix, ces moments sont peut-être à s'en souvenir, à privilégier, parce que de temps en temps, il y a des moments où rien ne va plus, et pour retrouver cette paix, on a besoin de temps fort. Enfin, notamment dans la foi, il y a des moments où les jeunes, comme le FRAT ou les GMJ, si on n'a pas eu ce moment, c'est difficile de retrouver cet élan vers le Christ et dans son Église.
Vous voulez dire que la paix, c'est aussi une mémoire de la paix?
Je suis convaincu. Enfin, Saint Ignace parlait des consolations et des désolations, et faire mémoire de ces moments de consolation, ça nous apporte la paix. Parce que justement, pour savoir traverser les épreuves, ou simplement traverser le quotidien, parce que la routine du quotidien, ça a de quoi un peu baisser les bras, et se souvenir ces moments forts, dire, et puis aussi, peut-être l'espérance d'avoir de nouveaux moments, ça nous aide à avancer, de dire, il y a ça bientôt, cet échange avec des amis, ces vacances au ski, cette retraite, enfin, que sais-je, ces moments peuvent nous aider à avancer.
Alors, vous citez dans votre livre Oblomov, le personnage d'Oblomov. Racontez-nous, parce que c'est vrai que c'est un drôle de personnage. Il est toujours allongé sur son lit, il n'arrive pas à avancer, il est dans une léthargie qui est presque épuisante, rien qu'à la lire. Il y a vraiment une forme d'apathie. Qu'est-ce qui fait qu'Oblomov pense trouver la paix, mais qu'en réalité, il est en permanence en questionnement?
Oblomov, il rêve de paix, mais il ne se donne pas les moyens. Parce que ce n'est pas des problèmes financiers, il a les moyens, il fait partie de la société russe assez aisée. Mais il rêve d'une paix, et en fait, il décrit comment il verrait son village, qu'il aurait des terres dans la Russie profonde, là il est en ville, mais il ne se donne jamais les moyens, et ça reste dans des rêves. Et vu qu'il ne transforme pas l'essai, il n'est jamais dans la paix, parce que c'est seulement des rêves, c'est seulement plus tard, et à force de remettre, il n'y arrive jamais, et il finit presque miséreux, alors qu'il aurait eu les moyens, il aurait pu se donner, mais comme il s'est jamais bougé, et peut-être que nous, c'est pas comme Oblomov, on n'a pas forcément besoin d'avoir une propriété au fin fond de la Russie, mais il y a un moment où peut-être transformer l'essai, parce que c'est bon, il y a toujours une excuse, on verra demain, vous voyez ce que je veux dire, et on a toujours, après les vacances, après ceci, là c'est le carême, là c'est machin. Du coup, en fait, si on attend toujours, du coup ça se fait pas, et il y a aussi, en décidant, aujourd'hui, de dire j'accomplis mes rêves, mes projets, parce que lui en l'occurrence c'est des rêves réalisables, et nous aussi je pense que tous à notre mesure on a des rêves réalisables si on se donne les moyens.
Vous citez Oblomov, mais est-ce que vous avez une figure spirituelle qui vous a marqué et qui est liée à la paix et avec laquelle vous priez, par exemple, Guillaume Le Floch?
Pas spécialement, mais moi je partirais de tous ces saints inconnus. Le pape François parle du saint de la porte d'à côté, et en fait, de la même manière, comme témoin de paix, il y a plein de personnes qui sont artisans de paix. Et en fait, heureusement qu'on les a par leur présence, par leur attention aux autres, etc. On a besoin dans ces équipes de personnes qui sont sensibles à la paix. Je parle de celui qui fait attention que tout le monde soit content. Et en fait, on a besoin de ces personnes-là pour que si tout le monde tranche ou si tout le monde, etc. Voilà, les profils qui apaisent. Qu'elle soit chrétienne ou pas, c'est nécessaire. Évidemment, encore plus comme chrétien, comme saint de la porte d'à côté, il apportera cette paix. Je pense que tous, on a connu un grand-père, une dame, une paroissienne, enfin tous, des personnes qui sont déjà tellement proches du Seigneur, qui sont artisans de paix. Ils font pas fait grand-chose, mais par leur présence, par leur disponibilité, par leur sourire, ils nous aident à accueillir cette paix, sans faire forcément des choses extraordinaires, mais dans les petites choses du quotidien.
Vous arrêtez aussi sur cette remarque de Mère Teresa à un journaliste qui lui demandait comment obtenir la paix parce qu'on a une envie de paix entre les peuples, entre les pays. Mais au fond, Mère Teresa, elle renvoie un peu ce journaliste à sa place aussi.
Oui, parce que c'est bien beau de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour la paix au bout du monde? Mais en fait, c'est chacun de nous, dans notre quotidien, à commencer à être artisan. Ça ne veut pas dire qu'on ne faut pas s'intéresser à la paix au bout du monde, c'est pas ce que je veux dire. Mais tous... Dans notre attitude, dans notre engagement, on peut commencer déjà, les parents dans leur éducation de leurs enfants, dans notre attitude, dans la paix dans notre famille, dans notre entourage, dans notre ville. Je pense que tous, à notre échelle, nous avons à être artisans de paix.
C'est un effort, vous diriez, ou est-ce que on est aidé aussi des circonstances? Il y a des lieux où on va plus facilement trouver la paix, il faut les connaître. Ça revient à la thématique de la connaissance de soi.
Il y a des lieux pour trouver la paix, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un effort dont on a déjà parlé. Mais c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont ressourçants. De la même manière qu'on a besoin de temps fort, il y a des moments où, pour retrouver cette paix, pourquoi pas un séjour en abbaye, ou alors dans une basilique comme Vézelay, comme Rome, ces lieux, même si on n'a pas la paix, on fait tous l'expérience que c'est vraiment des lieux de paix. Peut-être encore plus dans les abbayes qui sont encore habitées, où il y a encore la liturgie des heures qui est vécue chaque jour, la messe. Et donc, c'est vraiment des lieux de paix. Mais ça peut être aussi des magnifiques paysages où on se sent bien. Voilà, on est bien. On sent cette paix, un bord de mer, une montagne, un paysage de campagne. Évidemment aussi, comme je disais, les abbayes, les basiliques. On se sent bien. On est dans la paix.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la paix après la mort? À quoi croit le chrétien sur la vie après la mort et son lien avec la paix éternelle presque?
Le Christ nous apporte, par sa mort et sa résurrection, l'espérance de la résurrection. Et du coup, cette espérance... Au-delà de cet inconnu, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passait, il y a un côté d'abandon, et du coup d'accepter de ne pas tout comprendre, cette espérance peut nous aider à partir en paix, comme saint Paul qui est disponible si c'est le moment de partir, comme saint Martin qui est disponible si c'est le moment, je suis prêt, il est disponible. On a cité l'autre jour Siméon, si c'était le moment, il est disponible s'il doit mourir maintenant, et ça c'est possible par l'espérance que le Christ nous apporte. Le Christ ressuscité nous apporte cette espérance, et nous avons cette espérance par lui.
Et on peut prier pour la paix des âmes.
À chaque messe, au moins, on prie pour toutes les âmes qui ne sont pas encore dans la paix, dans ce qu'on appelle le purgatoire, les âmes qui ne sont pas encore purifiées, qui ont besoin de notre prière. Il est nécessaire, particulièrement le sanctuaire de Montlégion prie pour ces âmes. Elles savent qu'elles iront au paradis, mais elles ont besoin d'un temps de purification, et du coup, notre prière... particulièrement à chaque messe, est nécessaire pour retrouver cette béatitude.
Merci beaucoup, Père Guillaume Le Floch. Vous nous avez guidés durant toute cette semaine de carême et avec le Deutéronome « Choisis la vie, choisis la paix ». Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre, aujourd'hui curé de la paroisse de Marne-la-Coquette et Vaucresson. Vous avez longtemps été aumônier des jeunes et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Éloge spirituel de la paix » publié aux éditions Artege. Merci aussi à Pierre-Henri Paget qui a assuré la réalisation de ces émissions durant toute cette semaine. Merci.
Merci.